Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Mathématicien et polytechnicien, aviateur dès 1917, Marcel Griaul fut l'un des plus brillants anthropologues de la première moitié du XXe siècle. Il fut l'élève de Marcel Cohen et de Marcel Mauss, qui préfaça son premier livre en 1933. On doit à Marcel Griaul, outre ses travaux, d'avoir renouvelé les méthodes de travail des ethnographes français. Spécialiste de l'Afrique noire et plus précisément des Dogons, Marcel Griaul fut l'un des rares ethnographes qui, à sa mort en 1956, put bénéficier de funérailles traditionnelles africaines. On put lire de lui « Masque Dogon », qui fut réimprimé par les éditions scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle en 2004, ou encore ses entretiens avec Ogo Temli, publié en 1948, et des publications posthumes, dont le tome 1 du fameux mythe de création Dogon, Le Renard Pâle, écrit en collaboration avec Germaine Dieterlande, paru de façon posthume en 1965 et réédité par l'Institut d'ethnologie en 1991.
Monsieur Marcel Griaul, professeur à la Sorbonne et conseiller de l'Union française, qui a dirigé, entre autres, de 1931 à 1933, la mission Dakar-Djibouti, et qui a parcouru près de 100 000 km continentaux en Afrique, a bien voulu, touchant le problème de la magie, nous faire profiter de sa longue expérience et de ses observations. Je voudrais tout d'abord vous demander, monsieur le professeur, quelles ont été vos impressions immédiates et les plus frappantes en face de scènes de magie?
Eh bien, à vrai dire, au cours de mes voyages, je n'ai pas assisté à de très nombreuses scènes de magie. Mais cependant, je puis vous en parler quand même, attendu que je crois que le grand public, et même dans une très large mesure l'érudition, confond en ce qui concerne les pays que je connais, c'est-à-dire l'Afrique, et nommément l'Afrique tropicale, l'Afrique noire, confond tout ce qui est magique et tout ce qui est religieux. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous pourrons confondre également, comme tout le monde, ces deux termes pour notre entretien. Mais pensez toujours que ce que vous appelez magique chez les Noirs, je l'appelle, moi, religieux. Eh bien, ce qui m'a le plus frappé dans ces diverses manifestations, c'est la sincérité de l'agent, c'est la sincérité de l'assistant, c'est la sincérité de toute la société, de tous ses agents, de tous ses membres, au cours des manifestations ou des cérémonies magiques ou religieuses.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette sincérité qui vous a frappé?
Eh bien, comme exemple, je pourrais vous donner des cas de possession qui, à mon sens, sont toujours des cas religieux, mais que nous confondrons pour une fois. La possession est un phénomène très général en Afrique noire comme ailleurs, bien entendu. Je vous parlerai du cas de possession des prêtres totémiques en Afrique noire, spécialement au Soudan. Eh bien, ces gens, à un moment donné, reçoivent, pour ainsi dire, du ciel un appel, c'est ce que nous appellerions, nous, la vocation, et ils se sentent possédés, pris d'une sorte de frénésie qui les pousse à chercher dans un paysage chaotique et dans un paysage très vaste une série de matériels, de petits objets, généralement de petites pierres, qui, lorsqu'ils les auront trouvés, constitueront la preuve que leur vocation, que l'appel qu'ils ont reçu, était sincère. Car ce sont des postes assez importants du point de vue social. Eh bien, il m'est arrivé de travailler avec de nombreux prêtres totémiques, et une fois, entre autres, l'un de mes camarades, pendant mon enquête, s'approche avec une cigarette. Le tabac, la fumée du tabac, était l'interdit de ce prêtre totémique, et il me fait signe de prévenir mon camarade avant que celui-ci n'arrivât dans la cour où nous parlions. Je n'ai pas compris, ou je n'ai pas fait attention, ou peut-être l'ai-je fait exprès sur le moment, je ne me souviens plus bien. Mais en tout cas, lorsque le camarade est entré dans la cour, ce prêtre, qui était un homme très digne, très calme, très réservé et aussi très savant, a fait un bond tel qu'il a pu sauter par-dessus un mur, par-dessus le mur de sa cour qui faisait 2,50 m, il est parti dans la campagne, il s'est mis à grimper aux arbres, il s'est mis à courir à très grande vitesse dans un paysage chaotique où je me serais cassé 10 fois les jambes. Et il est revenu après 10 minutes. Il s'est assis à côté de moi à nouveau, furieux d'avoir été obligé de se déranger, et il a repris notre entretien. Eh bien, on ne me fera jamais croire que cet homme-là a simulé un état de possession ou un état de crise pendant 10 minutes pour m'en imposer ou pour en imposer à l'assistance.
Évidemment, ce serait une comédie.
Puisqu'il était furieux.
Ce serait une comédie un peu coûteuse.
Ce serait une comédie coûteuse. Un autre exemple. J'avais à mon service, lorsque j'étais en Éthiopie septentrionale, sur les plateaux abyssins du côté du lac Tana, j'avais à mon service, comme garde du corps, un ancien chasseur d'éléphants. Ce chasseur d'éléphants était un cultivateur qui un jour était parti avec des camarades à la chasse à l'éléphant. Il avait eu la chance ou la malchance de tuer un animal splendide dont l'esprit l'avait possédé, selon la croyance religieuse, encore une fois, de ces gens. Eh bien, l'éléphant étant un animal noble et habitant ce corps de cultivateur, a exigé que son remplaçant, que son nouveau porteur, change de vie, quitte sa vie peu reluisante de cultivateur et qu'il devienne guerrier et spécialement qu'il s'attache aux grands. Et c'est pourquoi il s'était attaché à ma caravane en qualité de garde du corps. Il ne voulait d'ailleurs absolument rien faire d'autre que porter son fusil et, disait-il, faire scintiller son anneau d'oreille, un anneau en corne de rhinocéros indiquant qu'il avait tué un éléphant. Il ne voulait simplement que porter son fusil et faire scintiller son anneau d'oreille parmi ses camarades. Voilà donc un homme qui, pour une question de possession, par un esprit étranger, avait complètement changé son existence.
Par conséquent, l'authenticité et la sincérité de la magie ne doit pas être mise en question. Mais elle semble tout de même poser un problème considérable, cette fois pour l'observateur du phénomène magique. Par exemple, pour l'explorateur qui assiste à une cérémonie magique. Vous dites que le problème de l'authenticité de la magie doit être posé en somme en termes non pas objectifs, mais humains, subjectifs. Pourtant, l'observateur est un homme. Quelle doit donc être, selon vous, son attitude en face du magicien? Il semble placé en face d'un dilemme, parce que d'une part, s'il se refuse à la contagion magique, s'il l'aborde dans un état d'esprit ironique, il ne verra que le pittoresque qu'elle peut présenter. Il n'y comprendra rien. Mais si au contraire, il s'abandonne à la contagion magique, plus rien alors ne le distinguera des fidèles, des possédés qui l'entourent, et qu'il s'agissait pourtant d'observer froidement. Son rôle d'ethnologue sera définitivement compromis. Entre ces deux attitudes, laquelle pensez-vous qu'il faut choisir?
Eh bien, vous avez raison de poser ces deux attitudes. Et à mon sens, il faut prendre une attitude moyenne entre les deux, ou bien plus exactement, non, ça n'est pas ça que je veux dire. Il faut observer les deux attitudes, et en même temps, et l'une après l'autre, à condition d'être conscient. Je veux dire que devant la chaleur de certaines manifestations, devant la sincérité dont je viens de vous parler à l'instant, il faut être soi-même aussi sincère et respecter comme une croyance à soi celle de l'autre. Et dans une certaine mesure, il faut s'y laisser aller. Il faut que l'œil et l'oreille se transforment chaleureusement, humainement, au contact des gens qui se livrent à des pratiques inhabituelles, et il faut essayer de croire tout au moins, et ceci est relativement facile, puisque lorsque on se trouve au milieu d'une assistance de croyants, de gens extrêmement convaincus et qui généralement sont dans un état d'excitation tout à fait particulier, il faut être vraiment de marbre, il faut être vraiment très inhumain pour ne pas se laisser gagner un peu par ces attitudes. Mais d'autre part, il faut rester extrêmement conscient de manière à ce que les observations qui sont faites au cours de ces cérémonies ne soient pas entachées précisément de ce petit côté sentimental ou littéraire ou esthétique que nous pourrions y mettre. En réalité donc, il faut être à la fois croyant, si on veut employer ce terme, et en même temps un athée et en même temps un scientifique devant les phénomènes. Et c'est précisément d'ailleurs le côté passionnant de l'ethnologie, c'est d'avoir à jouer ces différents rôles humains, parce qu'enfin, l'attitude scientifique est, dans une large mesure aussi, une attitude humaine.
Cette question préliminaire de l'attitude à observer en face du problème magique étant réglée, abordons, si vous le voulez bien, le problème de la magie elle-même. La magie tient sans doute son caractère un peu énigmatique de son ambiguïté fondamentale. Elle est apparentée d'une part à la religion, d'autre part à la science. Êtes-vous d'accord sur cette double affinité de la magie et voudriez-vous la préciser par quelques exemples ?
Bien, pour le moment, en effet, je suis d'accord avec votre définition. La magie est apparentée d'une part à la religion, d'autre part à la technique et donc, plus lointainement, à la science. Ce sont des définitions, c'est une définition qui a été donnée en particulier par mon cher maître Marcel Mauss, qui disait que, tandis que la religion tend vers la métaphysique et s'absorbe dans la création d'images idéales, la magie sort de la vie mystique, où elle puise d'ailleurs ses forces, pour se mêler à la vie laïque et y servir. La magie, donc, tendrait au concret et la religion à l'abstrait. La magie, certes, c'est un art de faire. C'est même, on peut dire, le plus pur des arts de faire, puisqu'il s'agit de partir de rien et il s'agit de travailler avec des moyens comme les mots et les gestes qui, techniquement, n'en sont pas. Et ce que fait le magicien avec des mots et des gestes, le technicien, lui, le fait avec du travail. Mais c'est là, et à ce moment, je ne suis plus tout à fait d'accord avec les théoriciens de la magie. C'est là que la magie rejoint aussi la métaphysique. Parce qu'enfin, si le magicien pense obtenir des résultats avec son verbe, avec sa parole, c'est qu'il pense que se trouve dans cette parole, dans ce verbe, une puissance suffisante pour agir. Or, quelle puissance met-il dans le verbe ? Eh bien, il met dans le verbe la même puissance que le religieux, la même puissance que le métaphysicien, et les Noirs m'ont appris que dans la parole, il y avait la même vibration que dans l'eau, que dans la lumière, que dans la matière elle-même, et pour eux, la parole, avec sa vibration, est une manifestation perceptible pour l'homme de la vibration interne de la matière. Eh bien là, nous ne sommes plus dans la magie ni dans la religion, nous sommes dans la métaphysique, dans cette métaphysique vers laquelle tend la religion, comme je vous le disais tout à l'heure à propos des définitions des théoriciens.
Ce n'est donc pas pour adorer les choses que le magicien se tourne vers elles, mais c'est pour agir sur elles. Car en somme, l'idolâtrie est un phénomène non pas magique, mais religieux.
Bien entendu.
Ceci rejoint une idée de Paul Valéry, selon laquelle le propre du magicien, c'est de prononcer des mots que la nature comprend mieux que lui-même, que lui, souvent, ne comprend pas du tout. Mais cette action sur les choses, si elle éloigne la magie de la religion, elle la rapproche non seulement de la science. Comment concevez-vous plus précisément la relation magie-science ?
Eh bien, je suis accroché par le nom de Paul Valéry que vous venez de prononcer, et qui était un ami, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il dit, d'après vous, que le propre du magicien, c'est de prononcer des mots que la nature comprend mieux que lui, et que lui-même ne comprend pas du tout, souvent. Eh bien, toujours en confondant, n'est-ce pas, les prêtres des populations primitives et ce que nous appelons les magiciens, je crois, au contraire, que les prêtres ou les magiciens compétents sont très conscients de ce qu'ils font. Ils sont au moins aussi conscients que la nature dont parle Paul Valéry. Bien entendu, vous ne trouverez pas cette conscience dans tous les usagers. Vous observerez que la masse de la population, dans la plupart des cas, ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais ce sera exactement comme pour les mathématiques chez nous. Si vous interrogez un grand nombre de personnes dans la rue, vous verrez que très peu sont capables de résoudre une équation de second degré. Ça n'empêche pas l'équation du second degré d'exister, ça n'empêche pas qu'il y ait une école polytechnique qui forme des spécialistes. Eh bien, là aussi, vous avez des spécialistes qui, eux, savent par quels moyens en faisant pleuvoir dans une poterie, en versant de l'eau dans une poterie, on peut faire pleuvoir sur le monde. Il n'y a pas d'ignorance, à proprement parler, de la part du magicien compétent.
Pourtant, ce caractère aveugle et mécanique de l'action magique ne pourrait-il servir à son tour à définir la morale magique par opposition à la morale pure? Le primitif ou le civilisé superstitieux s'entoure d'interdits et de prescriptions qui sont opaques, auxquelles ils ne comprennent rien. Au contraire, le propre d'une prescription morale n'est-il pas qu'elle trouve sa justification en elle-même, qu'elle est transparente aux yeux de celui qui se soumet à elle?
Mais en somme, j'ai en partie répondu à ce que vous me demandez actuellement, à l'instant. J'ai l'impression que la plupart des gens dans ces populations dites primitives ignorent le pourquoi des interdits, par exemple, notamment des interdits magiques, mais surtout des interdits religieux, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais ceci ne veut rien dire. Encore une fois, le magicien lui-même ou le prêtre sait parfaitement pourquoi tel bois, tel animal, telle gesticulation est interdite à telle famille ou à tel individu qui se trouve dans telle circonstance de sa vie. Il sait relier tout ça à un système cosmique harmonieux, et d'ailleurs lui-même, les interdits dont il est entouré ne font que le maintenir au sein d'un ordre cosmique, harmonieux, celui dont je vous parlais à l'instant, et dont il ne pourra rien tirer s'il ne lui est pas d'abord soumis, s'il n'y reste pas par définition, dès qu'il en sortira, c'est-à-dire dès qu'il franchira ses interdits, dès qu'il franchira ses limites, il sera en dehors des limites de l'épure et il ne pourra plus travailler. Il faut donc qu'il se confine, pour ainsi dire, dans l'ordre établi, aussi bien d'ailleurs le magicien que le prêtre. Et c'est là que nous voyons poindre la science, en un sens, mais ce serait presque aussi valable, encore une fois, pour le religieux. Le magicien est un homme qui vit de règles, et c'est le commencement de la science, peut-on dire.
Par suite, ce qui constituerait, dans la morale magique, le péché, la chute du magicien, est-ce que ce ne sera pas son détachement de cette harmonie et de cet ensemble cosmique? Et par suite, beaucoup moins la présence en lui d'un mal, une présence positive, dont il faudrait qu'il se débarrasse par une purification, mais au contraire une perte, un isolement, mystique en quelque sorte, la perte d'une puissance, d'une force, bénéfique ou maléfique, qu'il habitait, une absence, un vide, quelque chose de négatif.
Eh bien, le dernier état de notre opinion dans mon équipe et en moi-même, c'est bien ce que vous dites. L'impureté n'est pas un miasme, un élément, une force étrangère qui pénètre dans l'individu ou qui pénètre dans une collectivité pour le gêner dans les entournures, si j'ose dire. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au contraire d'une perte de force vitale, moyennant quoi il ne pourra plus rien faire et il ne pourra plus vivre dans des conditions normales. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et ceci nous fait retomber dans l'ancienne théorie, mais qui était trop exclusive, ce qui n'empêche pas que ce vide pourra être rempli par une force extérieure que nous appellerons impureté, mais qui sera tout simplement une force qui ne se trouvera pas à sa place. Par exemple, vous avez pour interdit le crocodile, vous en tuez un. Eh bien, du fait que vous l'avez tué, avant que quoi que ce soit ne se passe de la part de la force vitale du crocodile qui n'a plus de support, vous êtes vous-même vidé comme un poulet de votre force. Et c'est dans ce vide que va venir se placer la force en question. Mais ce qui fera le danger de la situation pour vous, ce ne sera pas cette force étrangère, mais bien plutôt l'absence de votre force habituelle. La force étrangère ne viendra que pour rendre la situation plus intolérable encore et pour vous rendre un service. C'est que vous apercevrez davantage de cette présence positive que de ce vide, que de cette négation. Et pour vous débarrasser de cette chose positive, vous procéderez à une purification qui consistera, à l'inverse, à rétablir la force ancienne que vous avez perdue, et c'est cette force qui poussera à l'extérieur la force étrangère qui était entrée en vous. Il y a à ce sujet de très beaux travaux qui ont été entrepris par l'une de mes élèves, Madame Diterlin, et qui a écrit une thèse sur ce sujet qui va paraître prochainement. L'impureté, c'est un vide avant d'être un plein.
C'était Connaissance de l'homme, la magie en Afrique noire par Marcel Griaule. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 mai 1950. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site des Nuits via franceculture.fr.